Deuxième intermède musical de cette journée de la radio spéciale Radio en guerre. Et à présent, nous allons écouter Il était une voix, une émission qui nous est présentée par Olivier Royer et Sarah Agabzi de Transmission, avec leur invitée Cécile Méadel, qui est professeure de sociologie à Mines Paris Tech et chercheuse au Centre de sociologie de l'innovation, spécialisée dans les techniques et les pratiques de communication. Ils vont nous parler des grands orateurs de la Seconde Guerre mondiale, notamment Charles de Gaulle et Winston Churchill.
Ça a débuté comme ça. Moi, je n'avais jamais rien dit.
Il m'avait laissé un petit quelque chose.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs.
Et pourtant,
des pourrouges
de criards les avaient
menacés. On se trouve en danger de la vie.
Il était une voix.
Et bienvenue, chers auditeurs, vous êtes sur Transmission Web Radio de l'ENS et c'est Olivier Royer pour une émission spéciale d'Il était une voix à l'occasion de la journée de la radio sur la thématique La radio en guerre. Et je suis comme toujours accompagné de Sarah Agabzi. Bonjour Sarah.
Bonjour Olivier.
Alors, ils ont marqué l'histoire et les consciences. Ils ont illustré la guerre, ses bouleversements, ses victoires et ses défaites. Ils sont la voix des pays engagés, conquérants ou en danger. Une voix qui fait le lien entre les grands dirigeants et les populations. Il était une voix se penche aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la radio, sur les grands discours radiophoniques en temps de guerre, et plus particulièrement au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des discours de combat portés par des grands orateurs qui sont également de vrais chefs militaires, pris au cœur du conflit. Je veux parler plus précisément de deux hommes sur qui nous nous concentrerons tout au long de cette émission, Charles de Gaulle et Winston Churchill. Des leaders politiques et militaires qui ont utilisé le média de la radio dans des temps troubles, non seulement pour rendre compte de leur action politique, mais pour redonner le moral à leur population, assurer de leur pugnacité et de leur détermination, et ainsi faire de leur voix la voix d'un peuple et de ses valeurs. Mais alors, quel rythme, quelle cadence, quel ton ces orateurs souhaitent-ils donner à leurs allocutions ? Il s'agira pour nous d'écouter ces voix et de tenter de comprendre les mécanismes d'élocution et de rhétorique qui président à la construction d'un discours de guerre. Mais il s'agira également de replacer ces discours dans le cadre radiophonique et de comprendre les enjeux d'une diffusion de masse au premier jour de la Seconde Guerre mondiale. Pour nous aider à répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Méadel. Bonjour Madame Méadel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors donc vous êtes professeure en sociologie des techniques de communication à l'École des Mines de Paris, chercheuse au Centre de sociologie de l'innovation, spécialiste de l'histoire des techniques et des pratiques de communication. Vous avez écrit de nombreux articles et ouvrages à ce sujet, notamment en 1994, Histoire de la radio des années 30, hein, dans la collection Anthropos. En 1997, vous avez coécrit La grande aventure du petit écran, la télévision française 1935-1975. Et en 1999, vous avez aussi co-dirigé Radio et télévision au temps des événements d'Algérie 1954-1962. Vous avez écrit un certain nombre d'autres choses, effectivement, mais on se concentre sur quelques titres. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, la radio est le résultat de changements profonds au cours des années 30. Hein. Vous insistez sur cela dans votre livre, Histoire de la radio des années 30. Régularisation des programmes, hausse considérable de l'audience, nouveaux types d'émissions et aussi nouveaux types de paroles à la radio. Alors, Cécile Méadel, quel rôle joue la radio dans la médiatisation du politique à la fin des années 30 et en quoi ce rôle est-il susceptible de modifier les pratiques du discours chez les hommes politiques ?
Finalement, le politique s'est mêlé tout de suite de la radio, mais pas sous la forme du discours politique. Le discours politique est peut-être la dernière chose qui arrive dans la construction des programmes de radio, dans la construction de la radio au cours des années 30. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit qu'en France, et c'est complètement relié, je trouve, au thème de votre émission, finalement, l'art oratoire va avoir beaucoup de mal à s'adapter à la forme de discours qui passe le mieux à la radio. Donc, nos hommes politiques de la fin des années 30 ont à leur disposition un art qui est vraiment celui du Parlement, dans lequel ils excellent. Il y a des orateurs vraiment de premier plan qui savent emporter une assemblée, qui savent la faire réagir. Ils ont l'éloquence des meetings et les discours, par exemple, de Blum à Luna Park en 36, arrive tout à fait à recueillir le sentiment de la foule qui est présente, mais qui est une foule acquise en quelque sorte. Et à la radio, eh bien, ils vont se chercher. Et finalement, aussi parce que la place de la politique, de la politique à la radio dans les années 30 est relativement limitée. On est très surpris par la campagne de 1936, qui sont une des rares programmes qui nous restent encore de l'époque. Et donc, c'est la première campagne radiodiffusée en France. Et en particulier, il y a ce fameux discours de Thorez, « Je te tends la main, ouvrier, paysan », etc. Quand je le dis moi-même, j'y mets une certaine éloquence. Il est lu d'un ton complètement plat, sans aucune espèce d'intensité, d'une manière vraiment monotone, monocorde. Et donc, on sent bien qu'ils ne savent pas comment on parle à cette espèce de micro, cette bouche noire à laquelle derrière laquelle ils mettent personne. Et donc, ils ont besoin de s'inventer un art oratoire.
Très bien, merci. Et justement, vous parlez de l'art oratoire et comment... Ce qu'on disait au départ, on va parler de deux grands hommes, orateurs. Alors, est-ce qu'à la radio, ils sont mieux qu'en vrai? On ne le saura certainement jamais pour notre part. Mais pour recontextualiser, on retrouve les prémices de ce qui annoncera la Seconde Guerre mondiale dans les exigences du traité de Versailles. Le contexte économique trouble n'arrange rien et la frustration des pays perdants ne fait que grandir. Elle se traduit par la montée du fascisme en Italie, puis du national-socialisme en Allemagne. Tandis que d'autres pays européens minimisent la menace. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne dans une guerre éclair. S'ensuit une expansion de l'armée allemande qui se prolonge jusqu'en juin 40, avec notamment l'invasion du Danemark et de la Belgique jusqu'aux frontières françaises. Et pour être plus explicite dans notre propos, je vais vous proposer une petite biographie de Charles de Gaulle, puisque pour ma part, c'est le grand homme que j'ai choisi. Donc Charles de Gaulle est né à Lille en 1890 au sein d'une famille catholique et patriote, il faut quand même le savoir. Dans son enfance, on le décrit alors déjà comme profondément attaché à la République et à la justice. Charles de Gaulle choisit donc la carrière militaire et Saint-Cyr. Et il est d'ailleurs frère d'armes du futur maréchal Juin. Vient ensuite la Première Guerre mondiale en 1914, durant laquelle il est blessé à trois reprises et fait prisonnier pendant deux ans jusqu'à l'armistice en 1918. Et on parle souvent de sa détermination, qui peut s'illustrer ici d'ailleurs par une petite anecdote, puisqu'il a quand même essayé, durant ces deux ans, de s'évader à cinq reprises. Hein. Toujours en vain, mais c'est quand même assez courageux. On parle souvent de sa détermination, ça je l'ai déjà dit. C'est aussi un théoricien de l'armée, puisque de 1919 à 1940, il développe à travers une série d'ouvrages ses théories militaires sur la nécessité d'un corps de blindés et la création d'une armée de métier. Lors de la déclaration de guerre de la France et l'Angleterre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, le colonel de Gaulle devient commandant des chars de la 5e armée. Et en janvier 1940, c'est là que tout va se précipiter. De Gaulle envoie à 80 personnalités, dont Léon Blum, dont on parlait tout à l'heure, et Paul Reynaud, un mémorandum fondé sur l'analyse des opérations en Pologne, pour éviter que ça se reproduise. De Gaulle est appelé ensuite par Paul Reynaud, président du Conseil, comme sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, le 5 juin. Il a pour mission de coordonner l'action avec l'Angleterre pour la poursuite du combat. Le 9, il rencontre Churchill à Londres. Il tente en vain de le convaincre d'engager davantage de forces dans la bataille. Le 16 juin, il apprend la démission du président du Conseil, Paul Reynaud, et son remplacement par le maréchal Pétain. Le général de Gaulle sera donc évincé de ce gouvernement. Le 17 juin, au lendemain de la démission du gouvernement, de Gaulle repartira aussitôt pour Londres afin de poursuivre la guerre. Après l'annonce de l'armistice par le maréchal Pétain, le général lancera le 18 juin, avec l'assentiment de Churchill, un appel à continuer le combat. Il conclura par... Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Cet appel, ni photographié ni préservé, sera publié dans la presse dès le lendemain. Et les jours suivants, toujours sur la BBC, il réitérera sa dénonciation de l'armistice du gouvernement et reprendra son appel à la résistance dans un discours du 22 juin. Et c'est ce que nous allons écouter maintenant.
Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20000 chars et 20000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Et voilà, vive la France, libre. Alors, bien sûr, j'ai coupé le discours qui était bien entendu trop long pour la radio, enfin pour notre émission en l'occurrence. Alors, d'abord, ce qu'il y a à noter, c'est l'intonation, que je trouve extraordinaire, qui est très claire, qui est très lente, mais en même temps extrêmement soutenue. Il y a une énergie, une certaine énergie, quand même. Et puis, il y a une détermination. Et c'est là qu'on reconnaît le personnage de De Gaulle. Et surtout, ce qui me frappe, c'est que c'est un discours militaire avant d'être politique. Parce que, comme il le dit, avec l'industrie américaine, on peut avoir 20 000 avions, 20 000 chars. Là, on a l'idée d'un plan. Et c'est un plan auquel on a envie de croire. Et c'est ça qui est important dans ce discours, d'après moi. C'est que, au-delà de juste redonner l'espoir et de dire il ne faut pas se laisser avoir par l'idéologie allemande, il y a aussi « j'ai un plan, suivez-moi ». Cécile, je vous donne la parole.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que on sent bien que c'est avant tout un discours écrit, et c'est un discours d'ailleurs qui va atteindre sa cible principalement par la voie de l'écrit. On ne sait pas combien de personnes l'ont entendu le 22 juin, mais probablement un nombre assez faible d'auditeurs. En revanche, il a été diffusé, renéoté, pas dans la presse française, mais il a été renéoté, diffusé, lu, évoqué, etc. Donc c'est avant tout un discours écrit et qui va se diffusé sous la forme de l'écrit. Mais ce qui est important, c'est que c'est aussi un discours, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un discours incarné, c'est-à-dire qui est porté par un corps. Et on voit le corps de De Gaulle derrière, avec cette espèce de rigidité, de force, de puissance, qui n'était pas inconnu non plus des Français, puisque j'ai dit que la radio était, que le politique était peu présent à la radio, mais en revanche, le politique était très présent au cinéma, et en particulier par les actualités cinématographiques. Vous savez que le cinéma a été extrêmement populaire en France. Il y a 400 millions de spectateurs par an à la veille de la guerre, c'est-à-dire que chaque Français va plus de 10 fois par an au cinéma, et donc, quand il va au cinéma, il a les actualités cinématographiques, et il voit les discours, et il voit les hommes politiques, et donc ce discours, il est incarné dans sa personne, que les gens peuvent se représenter, même quand ils lisent simplement le discours.
Et une question du coup, c'est un style quand même. Et justement, est-ce que c'est un style qui incombe à une époque où c'est vraiment Charles de Gaulle, comme vous le disiez, qui est vraiment derrière tout ça, ou est-ce qu'on peut le retrouver aussi dans des discours de politique ou de militaire de l'époque ?
Oui, non, je pense que le style, la rhétorique n'a rien de très spécifique, à part qu'évidemment c'est celle du général de Gaulle. La langue soutenue est quand même une très partagée par l'ensemble du corps politique, donc cette façon de tenir la langue, d'avoir un vocabulaire riche, etc., n'est pas spécifique du général. Ce qui frappe, c'est que c'est quand même un discours qui est très lu. Alors, il n'est pas lu platement, comme d'autres pouvaient le faire, mais c'est quand même un discours qui est très lu, avec des pauses, effectivement, dans la voix. Et le général de Gaulle, qui va au cours de la guerre, vous savez qu'il avait accès très, très régulièrement aux ondes de la BBC, qu'il avait Radio Brazzaville sur lequel il s'exprimait, etc. Donc, il va vraiment se former à la radio. Et il va en quelque sorte adapter son discours, avoir des périodes moins longues, utiliser les silences comme il savait déjà le faire, mais de façon plus intensive. Mais là, on sent quand même que, bon, il lit son discours, il y met énormément de conviction. Voilà.
Ça... On peut presque dire qu'il a raté sa carrière. Il aurait pu être lecteur à voix haute.
Il s'est aussi extraordinairement bien adapté à la télévision, qui était quelque chose avec laquelle il était en profond mal-être au début, parce que l'idée de se voir était quand même contraire à sa culture, probablement dans cette espèce d'immédiateté et de proximité. Mais il est devenu une formidable bête de scène en télévision aussi.
Voilà. Une vraie star. Et donc, une autre star, hein ?
Une autre star, effectivement, c'est Winston Churchill. Alors, moi, je vais parler de ce personnage en particulier, donc, qui a marqué également la Seconde Guerre mondiale par ses discours et son éloquence légendaire. Alors, pour la petite biographie, donc, né en 1874 dans une grande famille aristocratique britannique, il s'engage d'abord également dans des études militaires au Royal Military College et participe à plusieurs campagnes militaires dans les colonies avant de devenir également correspondant de guerre. Mais c'est surtout sa carrière politique qui occupe la majeure partie de sa vie. Il est longtemps député, d'abord conservateur, puis libéral. Il a une grande ambition et, en raison de son tempérament, qui est quand même pugnace, inflexible, il se fait très vite de nombreux ennemis dans la sphère politique, mais obtient également de hauts postes d'État, comme celui, par exemple, de premier lord de l'amirauté en 1911. C'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Durant toute sa carrière, il se distingue par un grand talent d'orateur et d'écrivain. Il a eu le prix Nobel de littérature, il faut quand même le rappeler, mais également par un tempérament combatif, un dévouement total au pays et à ses instituts. Et une, je cite François Kersaudy, une passion pour les événements exceptionnels et le désir ardent d'y être mêlé un jour. Dans les années 30, pourtant, il vit une traversée du désert. Il dénonce très rapidement la menace nazie, le danger d'un réarmement de l'Allemagne, mais il est peu écouté. Cependant, avec l'arrivée de la guerre, Churchill reprend du service et finit par remplacer le premier ministre démissionnaire Chamberlain le 13 mai 1940, d'abord plus par défaut que par réel enthousiasme du point de vue des membres du gouvernement, enfin de la sphère politique de l'époque. Alors je vous propose d'abord de comparer deux courts extraits de discours radiophoniques de Churchill qui marquent deux moments décisifs de son implication dans la guerre. Le premier extrait, c'est un extrait du discours du 19 mai 1940. 6 jours après sa nomination, c'est le premier discours qu'il établit en tant que premier ministre à la BBC. Donc la situation en mai 40, la situation européenne est critique, on l'a déjà un peu évoqué, les chars allemands ont franchi la Meuse et le massif des Ardennes, certaines armées ont capitulé comme l'armée hollandaise, le gouvernement français est paniqué et très pessimiste sur la suite, sur l'avenir du combat. Et le 19 mai, donc, Churchill répond à ce pessimisme par un discours énergique et belliciste, où le Premier ministre se pose en leader d'une Grande-Bretagne offensive, fière de ses valeurs et prête à résister à l'envahisseur. Alors, je vais d'abord vous lire en français pour que tout le monde comprenne ce petit extrait, et ensuite, on l'écoute tout de suite après en version originale. Notre tâche n'est pas seulement de gagner cette bataille, mais de gagner la guerre. Quand les combats en France auront perdu de leur intensité, alors viendra la lutte pour notre île. Pour tout ce que la Grande-Bretagne personnifie et tout ce que la Grande-Bretagne signifie. Ce sera la vraie bataille. Face au péril suprême, nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures, même les plus radicales, pour obtenir de notre peuple la dernière once et le dernier pouce d'effort dont il est capable. Les intérêts de la propriété et les heures de travail ne sont rien en regard de la lutte pour la vie et pour l'honneur, pour le droit et pour la liberté, à laquelle nous nous sommes consacrés. On écoute Churchill.
Our task is not only to win the battle, but to win the war. After this battle in France abates its force, there will come the battle for our islands, for all that Britain is,
and all that Britain means. That will be the struggle. In that supreme emergency, we shall not hesitate to take every step, even the most drastic, to call forth from our people the last ounce and the last inch of effort of which they are capable. The interests of property, the hours of labor, are nothing compared to the struggle for life and honor, for right and freedom, to which we have vowed ourselves.
Est décidé, les nuances sont nombreuses et la cadence est rapide. Il y a de nombreuses modulations, par exemple au début, il commence cet extrait avec une voix assez grave, assez sentencieuse pour parler de « Our task is not only to win the battle ». Il y a quelque chose d'assez grave et d'assez sentencieux, je trouve. Et puis ensuite, il y a un ton tout de suite plus enlevé, plus élevé et plus rapide pour indiquer la future marche à suivre, comme s'il nous invitait à être directement dans l'action. Alors, il y a également quelque chose de très intéressant, c'est lorsqu'il parle de la Grande-Bretagne, quand il dit « For all that Britain is », avec cette cadence assez ralentie et ce « all » qui est prolongé, renforcé, comme s'il voulait montrer vraiment tout ce qui peut indiquer la Grande-Bretagne, enfin la grandeur de la Grande-Bretagne grâce à ce « all » prolongé. Et donc on ressent bien hein, ce patriotisme de Churchill à partir de la manière dont il parle de la Grande-Bretagne. Et également la dernière phrase qui est aussi très très intéressante je trouve, puisque il y a une sorte de décalage entre le début où il parle the interests of property, the hours of labor, donc des choses assez secondaires finalement, les intérêts sont assez secondaires et qui sont balayés par ce nothing. Il y a un nothing à la fin qui vient balayer un peu tous ces intérêts secondaire pour placer les vraies valeurs. Hein. Il parle donc d'honneur, vie et honneur, le droit et la liberté. Et on voit qu'à la fin de cet extrait, il y a un rythme très soutenu et une cadence qui est presque, moi je dirais presque poétique, parce qu'il y a « the struggle of life and honor for right and freedom ». Il y a une forme de cadence qui est respectée entre les deux groupes de mots. Alors, à partir de ce petit extrait, Cécile Méadel, est-ce qu'on peut dire qu'on est là face à une forme d'éloquence de la propagande ?
Ah ouais, c'est pas ça qui me frappe. C'est-à-dire, effectivement, ce qui frappe d'abord, c'est qu'on est face à un homme de lettres. C'était le cas de Gaulle aussi. Mais là, profondément, effectivement, cette espèce de répétition, on pense à des poèmes anglais, il y a la répétition, il y a des formules, il y a vraiment le goût des formules dans les deux cas. Moi, ce qui me frappe aussi, que vous n'avez pas signalé, c'est la différence d'accent entre Churchill et De Gaulle, c'est-à-dire que Churchill a un accent qui vraiment le classe terriblement, c'est-à-dire c'est l'aristocrate qui s'adresse au peuple, alors que De Gaulle c'est le modèle, alors c'est un modèle exigeant, hein, c'est pas un modèle de langue dénaturée ou affaiblie ou appauvrie, mais c'est une langue qui est la langue de l'éducation, la langue des instituteurs, c'est une langue qui est faite pour parler à tout le peuple. Churchill ne cache pas une seconde que c'est un grand aristocrate qui entraîne le peuple derrière lui.
Oui, donc pour comparer cet extrait avec un deuxième extrait, on va à présent essayer de se concentrer sur un deuxième extrait qui est un extrait du célèbre discours prononcé le 18 juin 1940 à la Chambre des communes. Donc c'est le discours « This was their finest hour », donc un discours assez connu et qui a été repris ensuite par Churchill pour la BBC, 4 heures après son allocution à la Chambre des communes. Donc, pour la situation d'Europe, début juin 40, on l'a déjà un peu vu avec Sarah. Le 5 juin, la Wehrmacht lance son offensive sur la Somme. Enfin, on a déjà vu à peu près toutes les tribulations et tous les accidents, tout ce qu'il y a eu en juin 1940. Et la Grande-Bretagne se retrouve vraiment seule. La France est en situation d'échec. Elle se retrouve seule leader mondial, en fait, de la résistance à l'Allemagne. Et donc, le 18 juin, Churchill s'adresse à la Chambre des communes. Il assure que, quelles que soient les difficultés rencontrées et les revers subis, la Grande-Bretagne tiendra. Ce qu'il veut faire en cette heure chaotique, en proie au désespoir, c'est assurer de la pugnacité de l'Empire britannique, mais également faire part, sans concession, de la situation critique où se trouve l'Europe, et la situation plus dramatique encore où elle risque de se trouver si la Grande-Bretagne cède. Donc je vais d'abord vous lire un court extrait, et ensuite on écoute. Ce que le général Weygand a appelé la bataille de France a pris fin. Je m'attends à ce que la bataille d'Angleterre commence d'un moment à l'autre. De cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne. De cette bataille dépendent notre propre vie et la pérennité de nos institutions et de notre empire. Alors je vais couper un court extrait à ce moment-là où il explique que si l'Angleterre triomphe, l'Europe recouvrera sa liberté et des jours radieux. Mais, je reprends, si nous échouons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, y compris tout ce que nous avons connu et aimé, sombrera dans les abysses d'un nouvel âge obscur que les lumières d'une science pervertie rendront plus sinistre et peut-être plus long encore. Rassemblons donc nos forces au service de nos devoirs et comportons-nous de telle façon que, si l'Empire britannique et son Commonwealth durent 1000 ans encore, les hommes continuent de dire encore et toujours « ce fut leur plus belle heure ». On l'écoute.
What General Vagon called the Battle of France is over. I expect that the Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us, therefore, brace ourselves to our duties and so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour.
Alors, là, on a quand même affaire à une élocution et à un ton très différent du premier discours. D'emblée, le rythme est plus lent, plus pesant, moins vibrant même hein, par rapport au premier discours qu'on a écouté. Déjà, la première phrase, hein, « The Battle of France is over », avec ce « is over » qui est isolé avec de longs silences, assez pesants, je trouve, hein, qui reflète une forme d'abattement, on pourrait presque dire. Alors certaines phrases se terminent dans des soupirs, sont à la limite de la compréhension hein, quand il parle de Christian civilization à un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais petit à petit on n'entend plus vraiment, ça se finit dans un souffle un peu, et on a l'impression, on sent que, c'est peut-être une interprétation hein, mais on sent que la guerre est passée par là, qu'il y a une sorte de poids de la guerre qu'on sent davantage, je trouve, dans ce discours. Alors, le discours propose une vision cauchemardesque, infernale du monde sous le joug d'Hitler. Hein. Tout le talent de littéraire de Churchill se retrouve là, une fois de plus. Hein. On a affaire à vraiment un monde cauchemardesque, donc infernal, avec, The Lights of Pervergent Science et d'autres images assez frappantes. On est dans une conception très manichéenne, hein, des forces de la lumière contre les forces de l'ombre. Mais également, alors on a un ton qui correspond tout à fait, je trouve, à cet aspect très sinistre de cette évocation de ce qui peut attendre l'Europe. Et on a quand même une dernière partie, la plus connue, qui montre un regain d'intensité, hein, une détermination à ne jamais laisser tomber, hein, avec un « let us », un moment qui vient rompre avec la monotonie qui précède, et avec la fameuse phrase de la fin « this was the finest hour », avec un « this » là qui est bien mis en avant, comme s'il voulait vraiment insister sur le moment présent, l'instant décisif de ce moment. Alors, donc, par rapport à ce discours, beaucoup d'historiens, en fait, ont dit que lors de cette élocution, Churchill était beaucoup moins en forme que d'habitude, hein, qu'il était fatigué, qu'il n'était pas vraiment disposé à l'éloquence, et on sent cette fatigue, on sent quelque chose de pesant dans son élocution. Et c'est justement ce qui est intéressant, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Cécile Méadel, finalement... Dans ce discours, on sent que toutes les circonstances extérieures affectent un peu la manière dont il parle. Et est-ce que cela n'a pas également donc un impact sur la réception du discours, sur sa résonance, de savoir qu'il n'y a pas simplement un discours combatif, mais aussi parfois un discours de fatigue et d'un certain accablement ?
Moi, je dirais pas accablement, fatigue peut-être parce que ça fait une semaine qu'il vit la bataille de France, mais je pense que effectivement c'est un discours de l'abattement et c'est un discours de la défaite. Et c'est un discours qui veut profondément triste et sombre et qui veut dire qui veut attirer l'attention sur le fait que la bataille de France est perdue. Et je crois que il a besoin que l'Angleterre s'unisse derrière lui et Dieu sait qu'elle ne l'a pas été nécessairement et y compris dans les sphères les plus élevées, n'était pas forcément favorable à l'intervention de l'Angleterre. Et donc là, il a vraiment besoin de faire comprendre que la bataille de France est perdue et que la bataille de France risque d'entraîner la chute de la bataille, enfin la perte de la bataille d'Angleterre aussi. Donc on peut le lire comme de la fatigue, on peut le lire aussi comme le fait de vouloir faire comprendre très profondément à tous ceux qui l'écoutent, qu'on est dans une situation extrêmement sombre et extrêmement dangereuse. Et ça, je pense que c'est aussi ça qu'il a voulu communiquer. Et ça fait d'ailleurs partie d'une des spécificités de la propagande à la fois des Anglais, enfin de la BBC, dans leur version anglaise, comme dans d'ailleurs les choix qui seront faits par l'équipe française, c'est le choix de dire la vérité et d'attendre plus de la vérité que du mensonge. Il ne faut pas oublier que depuis 5 ans, se développe en face une propagande allemande d'une extraordinaire violence, vraiment à côté Churchill et de Gaulle, c'est un discours à l'eau de rose, c'est un discours ultra-violent, c'est un discours surtout qui n'hésite pas à mentir, à détourner, à tromper, à essayer de tout. Donc en face de ce discours très trompeur, Churchill prend vraiment aussi la voie de la vérité, c'est-à-dire oui, on a perdu et c'est grave. Donc voilà ce qu'on entend derrière ce discours.
Oui, merci. Alors, pour conclure cette émission, on va s'efforcer de comparer un peu ces deux personnages et leurs discours, en sachant que, donc, quelle était la relation entre Churchill et De Gaulle pendant cette guerre. On se rend compte que ces deux personnages qui ont certains points communs. Ils ont tous les deux une grande idée d'eux-mêmes et ils savent qu'ils vont jouer un rôle important. Hein. Ils se savent en tant qu'acteurs décisifs de la guerre. Et
ces deux hommes qui s'estiment, qui se respectent.
Oui, voilà, tout à fait.
Mais en même temps, qui sont souvent opposés farouchement sur certains points. Et comme le rappelle
François Kersaudy, c'est le biographe de Churchill, hein, enfin un des biographes de Churchill.
D'ailleurs, qui a écrit De Gaulle et Churchill.
Voilà.
Il parle d'une mésentente cordiale.
Oui, alors c'est intéressant ce terme de mésentente cordiale. Et je voulais avoir votre avis, Madame Méadel, sur est-ce que, selon vous, on retrouve peut-être dans ces deux discours un peu de cet aspect de mésentente, de décalage. Et quelle est, selon vous, s'il y avait vraiment une caractéristique à garder qui les différencie, quelle serait-elle, en fait, entre ces deux discours?
Moi, je n'entends pas, mais peut-être c'est faute d'imagination, la désentente dans ces discours-là, du moins. Ce que je vois, c'est une situation extrêmement différente des deux, puisque vous dites ils sont tous les deux conscients de leur importance, certes, mais il y en a un dont les fonctions... auxquelles les fonctions donnent une importance immédiate, directe, non contestée, et l'autre qui est en train de conquérir cette importance et de la faire accepter de l'extérieur. Donc, ils sont dans une situation extraordinairement différente, avec d'un côté tout un peuple dont on peut penser qu'il est à l'écoute de ce radio, du discours de Churchill, et de l'autre un discours dont il sait qu'il est très peu écouté, qu'il va mal passer, et de surcroît l'un et l'autre de l'autre, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles les conditions qui fixent la manière dont De Gaulle va s'exprimer, le minutage, les heures, il dépend entièrement de son hôte britannique. Donc on est dans une situation qui, surtout en 1940, après les choses vont un peu changer, mais en 1940 c'est pas tellement le prisme de l'accord entre Churchill et De Gaulle qui compte, que la dure conquête par De Gaulle de la reconnaissance comme le leader de la France libre.
Oui, effectivement. Et puis, mais tout de même, pour revenir sur leur différence d'élocution, comme vous disiez, hein, c'est vrai que Churchill a un ton beaucoup plus, beaucoup moins peut-être scolaire ou militaire peut-être que de Gaulle. Et vous parliez justement en début d'émission de ce malaise un peu des hommes politiques français face à la radio, où ils reproduisent un discours un petit peu académique, un discours des assemblées. Est-ce que c'est le cas un peu pour de Gaulle par rapport à Churchill?
Oui, puis je pense qu'en plus De Gaulle parle dans le contexte de la propagande allemande qui s'est déversée sur la France beaucoup plus que sur l'Angleterre, avec toutes les radios noires, avec des voix qui ont été véritablement dont on a pensé qu'elles étaient extrêmement fortes. Après, on a beaucoup remis en cause l'impact sur le public, sur les Français, sur l'opinion publique. L'impact de ces discours a probablement été très largement surestimée. Mais elle a été surestimée, y compris par les hommes politiques de l'époque. Et ils ont l'impression qu'ils doivent aussi répondre à ces orateurs qui ont dit n'importe quoi, qui ont véritablement essayé de favoriser, d'ouvrir la porte à l'Allemagne. Et c'est pas par hasard que Philippe Henriot, évidemment, il s'exprimera, il aura une antenne régulière un peu plus tard à la fin de la guerre. Mais Philippe Henriot, c'est vraiment l'espèce d'archétype contre lequel De Gaulle s'exprime, c'est-à-dire des orateurs extrêmement talentueux qui véritablement ont eux aussi un très grand sens de la formule et qui vont s'adapter beaucoup mieux au micro que ne le fait alors De Gaulle.
D'accord, ben merci pour cette intervention.
Donc vraiment pour conclure, à une époque où la télévision n'est pas encore popularisée, où la dimension mondiale des conflits nécessite une diffusion large, sans entrave géographique et physique, la radio et la diffusion de la voix semblent alors le meilleur moyen pour toucher les populations, non seulement du pays concerné, mais à travers le monde. En effet, ces discours ne sont pas que des messages adressés à la population française ou anglaise, ils portent aussi en eux l'image que l'ennemi peut se faire de telle ou telle puissance. Ils sont d'emblée sans frontières, mais ne sont pas pour autant sans limites.
Oui, on l'a vu avec votre intervention. C'est vrai que ce sont des discours qui portent en eux...
Ils sont représentatifs
d'une époque et aussi des conflits de la guerre des ondes également, qu'on peut retrouver au début de cette Seconde Guerre mondiale. En tout cas, merci beaucoup, Cécile Méadel, d'avoir été notre invitée. Je rappelle l'ouvrage principal dont on s'est servi, c'est Histoire de la radio dans les années 30 aux éditions Anthropos. Mais vous avez également fait un grand nombre d'ouvrages, plus récemment sur le téléchargement, sur Téléchargement si tu peux, donc dans des domaines très différents. Merci Sarah et merci à toute l'équipe technique, au public, à Transmission, à Transistor et à tous ceux qui ont réalisé cette journée. Et vous retrouverez Il était une voix très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Ça a débuté comme ça. Moi, je n'avais jamais rien dit.
Il m'avait laissé un petit quelque chose.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs.
Et pourtant,
des pourrons
et criards les avaient pensés. On se trouve en danger de vie, la vie d'Arnaud.
Il était une voix.
J'étais insoucieux.